France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, rendez-vous avec Isme. Nous revenons sur une idée, un mouvement, une tendance, un isme, un thème pour mieux comprendre les termes, les mots du débat politique d'aujourd'hui.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Aujourd'hui, deuxième épisode d'enquête de trotskisme. Les premiers trotskistes.
Nos oppositions de gauche restent fidèlement dévouées à l'international communiste.
Je me trouve dans une grande pièce avec au fond Trotsky qui se lève. J'ai cru que c'était la révolution d'octobre qui se lève à tout d'un coup.
Les trotskistes sont des révolutionnaires. Trotsky était un révolutionnaire et pas un gauchiste.
Au quatrième, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien. Qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes. Putain, ce qu'il est blême.
Je pense à l'affirmation prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Eh bien, vous voyez.
J'ai joué dans un film qui s'appelle Portrait d'une jeune fille en feu. Et aujourd'hui, vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu.
Si vous lisez ce qu'a écrit Trotsky sur le stalinisme, la dégénérescence de l'Union soviétique, vous comprenez, y compris Poutine aujourd'hui.
Pour ce deuxième volet d'enquête de trotskisme, nous allons retrouver Jean-Jacques Marie, historien du socialisme, spécialiste de la Russie et du monde soviétique, trotskiste lui-même, plutôt tendance au CI. Didier Lesky, préfet, aujourd'hui il s'étiquette chevènementiste, mais fut longtemps trotskiste, plutôt pabliste. Nous croiserons aussi le professeur d'histoire Pierre-François Gron, l'un des fondateurs du NPA, ancien de la LCR, aujourd'hui proche de l'insoumise Clémentine Autain, et puis le célèbre historien Benjamin Stora, ancien lambertiste. Voilà, à la fin de cette émission, de ce deuxième numéro consacré au trotskisme. Si j'ai bien fait mon boulot avec Christophe Imbert à la réalisation, Franck Olivard aux archives sonores et Aurélie Marciro pour sa chronique livre, eh bien, si j'ai bien fait mon boulot, à la fin de cette heure, les mots lambertiste, OCI, pabliste, entrisme, lutte ouvrière, LCR ne seront plus des mots ou des acronymes étranges d'un mouvement politique français nébuleux et extrémiste. Pour comprendre l'histoire du trotskisme français, il faut revenir aux années 30, ce que nous allons faire avec Jean-Jacques Marie, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du socialisme, du mouvement ouvrier, de l'URSS. Son dernier livre s'appelle « Des gamins contre Staline » publié au Seuil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean-Jacques Marie, pourquoi les trotskistes français des années 30 rejoignent la SFIO ? Le parti socialiste depuis 1920, le parti réformiste de Léon Blum.
Cela s'explique par la situation qui existe en France à partir de 1934, février 34. Une section française de l'opposition internationale s'est constituée. Elle est très petite, elle regroupe quelques petites centaines de membres, essentiellement venus de l'opposition quand ils étaient dans le parti communiste. Mais à partir de l'accès au pouvoir d'Hitler, Trotsky considère que Staline porte une grande responsabilité. Pour une raison simple, c'est que pendant des années à ce moment-là, jusqu'à la prise de pouvoir par Hitler, la politique de Moscou et du PC allemand, en conséquence, a été de considérer que l'ennemi principal, c'était les socialistes allemands. Alors que Trotsky expliquait, la social-démocratie allemande a une politique catastrophique, et l'ouvrier social-démocrate déteste les fascistes. Donc il faut se battre pour le front unique entre le PC et la social-démocratie allemande contre le fascisme. Or, à l'époque, la politique de Moscou, c'est de dire que les socialistes allemands sont l'ennemi principal. Deux slogans caractéristiques, un slogan du PC allemand. Il ne faut pas que l'arbre du fascisme cache la forêt social-démocrate. Bon, ça, au moins, c'est très clair. Et deuxièmement, un communiste allemand qui finira liquidé par les staliniens, d'ailleurs, Willy Münzenberg, dénonce la proposition fasciste de Trotsky d'un front unique entre les socialistes et les communistes. Donc, il n'y a plus de place pour les opposants dans le Parti communiste, surtout après le fait que ça aboutisse à la victoire d'Hitler.
Qu'est-ce qu'il y a comme perspective pour les Français communistes, mais qui ne sont pas staliniens?
Je suis resté dans le Parti communiste, parce que de toute façon, s'ils disent quoi que ce soit, ils sont virés immédiatement. À partir de février 34, apparaît une situation un peu nouvelle en France. Février 34, vous avez un soulèvement, disons, d'extrême droite visant à prendre l'Assemblée nationale d'assaut, qui débouche sur une manifestation d'opposition à cette montée du mouvement fasciste français le 12 février, où là, les deux cortèges du PC et de la SFIO se rejoignent, sans que les dirigeants aient appelé à ça, au cri d'unité, unité. Et vous avez un développement d'une vague révolutionnaire qui se manifeste par l'adhésion de milliers d'ouvriers et de jeunes à la SFIO et au développement dans la SFIO d'une tendance de gauche qui s'appelle la gauche révolutionnaire, qui est dirigée par Marceau Pivert, que j'ai connu d'ailleurs, et qui recrute en particulier dans les bastions ouvriers, à Montreuil par exemple. L'idée de Trotsky est la suivante, qu'il propose aux quelques dizaines de trotskistes français, entrez dans ce parti, faites-y une tendance. Donc une partie d'entre eux adhère à la SFIO. Ils constituent une tendance bolchevique-léniniste, qui doit quand même apparaître bizarre à un certain nombre d'adhérents de la SFIO, mais qui se développe d'ailleurs, puisqu'elle va avoir...
Surtout chez les jeunes.
Entre autres chez les jeunes, où...
Mouvement de jeunesse des socialistes.
Vous avez un mouvement de jeunes socialistes, un particulier nommé Fred Zeller.
Voilà que je reçois par David Rousset un message de Léon Trotsky qui était au courant de tout, parce que lui il suivait tout ce qui se passait, y compris nos journaux, ce qu'on disait, etc. était au courant.
Fred Zeller, enregistré en 2002 par Jean Birnbaum pour sa formidable série sur les trotskistes sur France Culture, raconte ici sa rencontre avec Léon Trotsky.
Léon Trotsky serait très heureux si tu acceptais d'aller le rencontrer en Norvège. Il dit, ça pose problème parce que on est aussi lié avec la gauche du parti avec Marceau Pivert et il est évident qu'ils vont réagir en disant vous nous faites passer tous pour des trotskistes. Je dis, écoute, il est difficile de repousser une invitation comme celle-là, j'y vais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à une fosse après une pérégrination très délicate parce que je devais traverser l'Allemagne où Hitler venait de prendre le pouvoir. Après trois nuits et trois jours, avec un itinéraire très bien mis au point par un ancien secrétaire de Trotsky, Vendéjenor, et enfin j'arrive à Oslo où des camarades norvégiens m'attendent pour atteindre le Vexal, un petit village perdu dans la neige où il y avait un grand chalet en bois. Alors, ils ouvrent la porte et disent « Frazeller vient d'arriver ». Je me trouve dans une grande pièce avec au fond le bureau et Trotsky qui se lève. J'ai cru que c'était la révolution d'octobre qui se lève à tout d'un coup. Le vieux me dit, écoutez, je n'ai pas de secrétaire et il faut absolument qu'on réponde au courrier. Il me dictait les réponses sur les sujets les plus divers. Il fallait parler de la question des syndicats en Angleterre, répondre à la réorganisation du PUM, le Parti d'unification marxiste en Espagne, trotskisant, et les rapports avec les anarchistes du PUM et de la CNT, etc., etc., etc.
Fred Zeller, qui sera après la guerre un artiste peintre reconnu et au début des années 70, grand maître du Grand Orient de France. Il faisait donc partie, dans les années 30, de ces jeunes trotskistes qui composaient l'aile gauche de la SFIO. Une forme d'entrisme a découvert. Alors eux, ils disaient « à drapeau déployé ». On verra un peu plus tard dans l'émission ce que recouvre ce terme d'entrisme. On retrouve l'historien Jean-Jacques Marie à propos des jeunes trotskistes autour de Fred Zeller.
Et ils prennent la direction des jeunesses socialistes de la Seine, et si mes souvenirs sont bons aussi de la Seine-et-Oise. Ce développement se heurtera assez vite aux mesures disciplinaires prises par la direction du Parti Socialiste.
Ils vont être exclus en 35.
Oui.
Pourquoi ?
Parti en 36. La direction du Parti Socialiste est assumée par Monsieur Paul Faure. Monsieur Paul Faure, un bonhomme d'appareil, veut que la discipline soit respectée. La direction des jeunesses socialistes de la Seine, 13 de ses membres sont exclus en 35, mais il en reste encore une partie d'entre eux qui connaîtra le même sort d'ailleurs après un épisode qui se déroule en 1936. C'est ce qu'on appelle la fusillade de Clichy. Vous avez à Clichy, le colonel Larocque, dirigeant des Croix de Feu, organise un meeting. À ce moment-là, la Fédération de la Seine, des socialistes de la Seine, appelle à une manifestation contre cette manifestation des Croix de Feu. Le 16 mars 1937, la police dirigée par le ministre socialiste Max Dormoy tire sur les contre-manifestants et en tue 5. Dans les 5 manifestants, vous avez un membre de la gauche révolutionnaire de Marceau Pivert. Torres, d'ailleurs, insulte les manifestants en les qualifiant de sales trotskistes, y compris ceux qui ont été abattus. Et l'organe des jeunesses socialistes de la Seine publie un numéro de son journal qui s'appelle La Jeune Garde, dont le titre est « 8 milliards pour l'emprunt », l'emprunt que le gouvernement socialiste de Front Populaire avait organisé, « 5 morts à Clichy, l'argent de la bourgeoisie se paie avec le sang des ouvriers ». Aussitôt, la direction de la SFIO exclut 22 dirigeants des jeunesses socialistes, dont quelques trotskistes qui étaient restés à la direction. Et ça, c'est la fin de la tentative d'utiliser l'adhésion de la SFIO pour y construire quelque chose.
Enquête de politique.
Dans le trotskisme mondial, la France a une place singulière.
Didier Lesky, ancien trotskiste, aujourd'hui préfet.
Trotsky est venu en France avant la guerre de 14-18. Il avait du reste une très grande admiration pour Jean Jaurès. Et il parle français, il lit le français.
L'ouvrier, il se tient pour un communiste. Il n'étudie pas des documents. Ne vérifie pas par lui-même les faits. Ne vaut pas grand-chose. C'est lui qui croit à la parole dans la politique. N'est qu'un idiot.
Il va du reste être élogieux quand il va lire le livre de Céline, Voyage au bout de la nuit.
Ah oui.
Et donc, il a créé des amitiés. Et ces amitiés, elles vont être le premier noyau du trotskisme en France. Et quand il va revenir dans le cadre de son exil en France, eh bien, il y a des jeunes hommes qui vont l'entourer et qui vont finir par l'appeler le vieux parce que il est la figure d'ancêtre positif de ce qu'a été la révolution russe, et ils vont s'appeler l'opposition de gauche au stalinisme. Trotsky, il est l'objet d'une fascination intellectuelle de la part d'hommes qui vont devenir, du reste, au fil du temps, des personnalités. On peut penser à David Rousset, par exemple, qui a été un grand journaliste, qui a écrit le premier récit sur les camps de concentration, l'univers concentrationnaire, les jours de notre mort.
Qui va devenir, d'ailleurs, gaulliste de gauche.
Gaulliste de gauche. Yvan Crépeau, quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'organisation trotskiste et qui va avoir un impact de longue durée sur la société française, c'est André Hessel, qui est le fondateur de la FNAC. Et bien sûr, Maurice Nadeau et d'autres.
Bah justement, on va écouter Maurice Nadeau, l'écrivain, l'éditeur Maurice Nadeau, qui était trotskiste avant la guerre et pendant la guerre et pendant la résistance.
Figure du surréalisme aussi.
Figure du surréalisme. On parlera du surréalisme aussi après. Mais écoutez, Maurice Nadeau et sa définition de ce qu'est être un trotskiste dans une organisation en France.
Quand le trotskiste est quelque part, c'est tout le milieu qui change. On avait cette comparaison quand on militait en tant qu'organisation, petite organisation, on se disait, on est le levain qui fera lever la pâte. La pâte, elle est là. Il lui faut du levain, il faut qu'elle lève. Un trotskiste quelque part, c'est le virus qui se met dans la pâte. Chez Renault, il n'y avait pas des masses de trotskistes, il y en avait un, deux, trois. Mais il suffit d'un quelque part pour lever une armée de gens qui disent « Mais oui, mais il a raison, mais en effet !» Renault a dit « Tiens, on a un copain là, dans cet atelier. » C'était lui qui était le levain dans la pâte. D'abord, il avait mauvaise réputation, il s'était marié avec une martiniquaise. Et pour les ouvriers, ça n'était pas bien, ça. Et rien que pour ça, il faisait lever la pâte. Il disait, bon, celui-là, il n'est pas comme les autres. Et il était trotskiste, en effet. Un anonyme parmi des milliers de gens, ça peut faire beaucoup de boulot.
Oui, Didier Lesky, là, c'est vraiment, on a tout le trotskisme réuni dans ce que vient de nous décrire Maurice Nadeau. Il parle des grèves de 47, des grandes grèves de 47.
Oui, il parle des grandes grèves de 47, mais son image de levain est pas complètement absurde, parce que il y avait quelque chose dans la pensée Trotsky, dans le Trotsky, c'est cette idée que une idée qui arrive dans le cœur des masses devient force matérielle. Et donc l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait l'idée, si vous voulez. Et la deuxième chose, c'est que la caractéristique de ces environnements trotskistes, c'est la discussion perpétuelle, hein. Même parfois comparée à des discussions talmudiques sans fin, c'est-à-dire le pile-poule, comme on dit chez les talmudistes, et ça va produire des esprits qui ont l'habitude de discuter, de dialoguer avec des esprits brillants. On peut penser à Cornelius Castoriadis, Lefort, enfin, et d'autres, Guattari. Ça a formé des générations d'intellectuels, parce que justement, il y a cette idée que l'idée, si elle se propage, elle devient force matérielle. Et donc, le nombre, d'une certaine manière, ne compte pas si l'idée arrive jusqu'au cœur des masses.
c'est pratique quand même pour un mouvement très très minoritaire de théoriser que le nombre compte pas.
On essaye de pallier la petite quantité et surtout à l'hostilité du monde. Parce que
l'hostilité, justement, il y a aussi cette culture minoritaire, la rhétorique de la solitude, les trotskistes sont toujours seuls, toujours attaqués, minoritaires, persécutés, assaillis de toutes parts. Et là, je vais vous faire écouter un extrait, toujours de la même émission de France Culture de 2002, Jean Birnbaum, une lecture d'un texte de Trotsky sur ce thème du trotskisme assiégé, du trotskisme persécuté.
La question est de savoir pourquoi nous ne progressons pas en fonction de la valeur de nos idées. Nous ne progressons pas politiquement. Ce fait est l'expression du recul général du mouvement ouvrier dans les 15 dernières années. Quand le mouvement révolutionnaire décline de façon générale, quand une défaite suit une autre défaite, quand le fascisme s'étend sur le monde entier, quand le marxisme officiel s'incarne dans la plus formidable machine à duper les travailleurs, il va de soi que les révolutionnaires ne peuvent travailler que contre le courant historique général. L'ensemble de la situation est contre nous. Depuis 1917, nous avons connu une longue suite de défaites. Nous sommes comme des gens qui tenteraient d'escalader une montagne et qui recevrait toujours et toujours des avalanches de pierres et de neige. Léon Trotsky.
C'est un peu désespéré, c'est un peu Sisyphe.
Oui, mais c'est la situation des années 30. C'est ce que Victor Serge va résumer avec cette idée qu'il est minuit dans le siècle. On a Staline, on a Hitler, on a Mussolini, on a l'écrasement de la Révolution espagnole, qui est quand même un événement majeur, en plus de l'écrasement de la Révolution allemande. Et Trotsky, c'est quelqu'un qui n'a pas de visa, on sait même pas où le mettre. Et c'est pour ça que son biographe, Isaac Deutscher, parlera de la planète sans visa pour Léon Trotsky, des maisons qui sont attaquées à coups de pistolet par les staliniens, des militants qui sont assassinés, on peut penser à Clément, à d'autres, enfin, c'est terrible. Et donc, il faut pas sortir de la photo, il faut maintenir une fraction qui, à un moment donné, parce que la conjoncture va se retourner, c'est ça que Trotsky pense, et en particulier, il pressent la montée de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, il pressent du reste, il écrit dès 1938-39 qu'il va y avoir une extermination des Juifs, il le sent, et il l'écrit, et il appelle du reste les démocraties à réagir beaucoup plus violemment contre Hitler. C'est là où il commence à réfléchir sur la question démocratique, mais il dit, eh bien, si on arrive à écraser tout ça, le fascisme, le nazisme, il va y avoir de nouveau un élan révolutionnaire, et à ce moment-là, on peut espérer que la situation se retourne aussi en Union soviétique, et ça ne va pas arriver.
Nous sommes en quête de trotskisme. Trotsky et les surréalistes. Trotsky rencontre André Breton. Avant sa mort, donc dans les années 30 et en exil, Léon Trotsky essaye d'être en contact avec tout ce qui, dans le monde occidental, représente une forme de contre-culture aussi, pour rester dans la photo, par exemple, ses relations avec les surréalistes.
Moi, j'ai rencontré André Breton plusieurs fois, je suis allé le voir plusieurs fois chez lui, 42 rue Fontaine, c'est ça, oui. J'en ai discuté avec lui.
Jean-Jacques Marie.
Même quand c'est quelqu'un comme Breton, il faut toujours se méfier de la manière dont, dans la mémoire, quelqu'un retrace ce qu'il a vécu 30 ans plus tôt. Mais je pense que Breton a d'abord essayé d'adhérer au Parti communiste français à la fin des années 20, 29. La direction du PC l'a foutu dans une usine d'ouvriers du gaz, sans doute pour qu'il n'influence pas des intellectuels.
On imagine André Breton et les tuyaux de gaz, oui, ce que ça peut donner.
Bon, mais ça c'était pour essayer de démoraliser. Très vite, il a rompu, parce qu'après le retour d'Aragon, de Kharkov, où Aragon était devenu enthousiaste du parti qui était déjà bien stalinien. Et c'est pourquoi Breton s'est intéressé à Trotsky. C'est pour deux choses. Premièrement, parce que pour Breton, la révolution d'octobre était quelque chose de très très important qui avait sonné le clairon dans ce vieux monde en train de s'écrouler. Trotsky a présenté la continuité de ce mouvement qui avait marqué le début de la fin du vieux monde, pensait-il. Trotsky était le dernier, il n'y avait plus personne. Tous les autres étaient liquidés en URSS, et de toute façon, on ne pouvait pas en sortir.
Ou c'était perverti dans le stalinisme.
Absolument. Donc, il a voulu rencontrer Trotsky. Ils ont sympathisé au point qu'ils ont signé un manifeste en commun pour la liberté artistique, signé Diego Rivera et Breton, mais c'est Trotsky qui a écrit la partie attribuée à Diego Rivera.
Ce ne sera pas ce qu'il y aura eu de moins singulier dans le destin de cet homme.
André Breton.
que d'avoir éveillé la sympathie profonde des artistes alors qu'il n'avait lui-même du problème artistique qu'une compréhension très moyenne.
Est-ce qu'il y avait dans l'idée de Trotsky aussi, en rencontrant les surréalistes, l'idée que dans les pays occidentaux, il fallait s'allier tous ceux qui étaient un petit peu de la contre-culture, tous ceux qui minaient peut-être de l'intérieur les régimes capitalistes et bourgeois. Et on pouvait considérer peut-être que les surréalistes à cette époque-là étaient proposer une forme de contre-culture un peu subversive. Est-ce que c'était aussi ça ou...
Il y avait ça en partie, dans la mesure où Trotsky se disait que dans la recherche de la création artistique, l'artiste se heurte aussi, moins brutalement qu'à la dictature policière de Staline, mais se heurte aussi aux lois du marché. Donc, il peut avoir intérêt, lui aussi, à s'intéresser à ce qu'est une politique révolutionnaire. Oui, il y a cette idée. Un certain nombre d'artistes comme...
Prévert, par exemple ?
Prévert, oui, à un certain moment, a été plus ou moins séduit. Benjamin Perret, non, il était surréaliste. Il appartiendra même à la quatrième internationale, Benjamin Perret.
À cette époque, deux positions s'affrontaient dans le parti et la troisième internationale. La théorie officielle prônait l'édification du socialisme dans un seul pays, la Russie.
Le poète Benjamin Perret.
Tandis que l'opposition de gauche, dont je soutenais les thèses présentées par Trotsky, misait sur la révolution internationale. Par ailleurs, les intrigues et combinaisons louches que je voyais se nouer à l'humanité m'incitèrent à m'écarter du Parti communiste pour échapper à l'atmosphère empestée qui régnait au parti et à l'étroitesse de vue que j'y constatais.
France Inter, en quête de politique, Thomas Legrand.
Et ce texte, cette relation avec les surréalistes nous permet de passer au trotskisme des années 60-70. On voit bien avec cet esprit de liberté, cet esprit presque même un peu libertaire, ce qui peut séduire la génération des années 60-70 qui a voulu révolutionner le monde. Est-ce que Didier Lesky, quand vous étiez jeune et que vous avez rencontré le trotskisme au lycée,
collège,
au collège, parce que je crois que vous n'avez pas fini vos études, vous vous êtes fait virer parce que trotskiste. Oui. Est-ce que vous aviez cette image du trotskisme aussi ouvert sur le monde, ou pour vous, c'était simplement celui qui avait raison sur la révolution?
Alors, d'abord, pour quelqu'un de ma génération, il y avait des mots qui sonnaient juste dans l'après 68. Enfin, qui résonnait beaucoup, c'était l'idée de la révolution permanente. Parce que le livre de Trotsky, qu'on lisait d'abord, c'était ce recueil de textes qu'on appelle la révolution permanente. Après, il y avait, puisque moi j'ai commencé ma conscience politique après 68 dans le mouvement, mais il y avait déjà des figures qui nous semblaient liées à l'art, bien sûr. Vanessa Redgrave. You say you wanna rebel. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. John Lennon, à un moment donné, qui vend un journal trotskiste avec une photo célèbre, et d'autres. Et puis, il y a l'idée que les trotskistes, eh bien, ils ont été du côté de la révolution algérienne, ils sont du côté de la révolution vietnamienne, et ils sont du côté du mouvement de la vie. Voilà.
Le trotskisme rencontre à ce moment-là le tiers-mondisme. On se dit que la révolution internationaliste que voulait Trotsky pourrait passer par la décolonisation.
Alors, c'est un débat extrêmement important, mais oui, il y a cette idée que la révolte anticoloniale et anti-impérialiste va permettre de nouveau d'insuffler un dynamisme à la classe ouvrière dans les pays d'Europe. C'est pas entièrement faux, mais on sait que ça ne suffira pas.
Le trotskisme, pour nombre de jeunes Français des années 60, représente la face lumineuse et démocratique, ouverte et un brin utopique du socialisme. Comment le chef de l'armée rouge, le théoricien implacable de la révolution, est-il devenu l'inspirateur d'une jeunesse idéaliste? Le contre-modèle stalinien offre au paria Trotsky des vertus démocratiques par contraste. Trotsky reprochait à l'URSS la bureaucratie, la théorie du socialisme dans un seul pays et l'absence de démocratie mais l'absence de démocratie au sein seulement du mouvement socialiste. C'est le moment de faire le point sur Trotsky et la démocratie avec Pierre-François Gron, ancien dirigeant de la LCR, professeur d'histoire dans un lycée parisien, rencontré, vous allez l'entendre, dans un café près de la Bastille à Paris. Trotsky a évolué, et là je m'adresse à l'historien Pierre-François Gron. Trotsky a évolué sur la question de la démocratie. Est-ce que vous pouvez nous retracer cette évolution depuis le début du Trotsky patron de l'armée rouge qui écrase les anarchistes de Makhno en Ukraine ou les rebelles de Kronstadt, au Trotsky des années 38-39 qui rencontre les surréalistes et qui a une conception de la démocratie bien différente?
Oui, ben c'est un personnage à multiples facettes. C'est pour ça que c'est un personnage qui va traverser l'histoire. Bon, il est le chef de l'armée rouge pendant la guerre civile. L'écrasement de Makhno et l'écrasement des anarchistes et de Kronstadt, c'est une tragédie pour moi. C'est absolument pas quelque chose à assumer. Je sais que c'est une polémique entre trotskistes et anarchistes qui a duré tout le siècle. Mais il faut bien comprendre que la période est très violente. On est dans une guerre civile. Hein, et cette guerre civile, elle est menée contre des blancs antisémites, des armées étrangères qui interviennent en Russie. Donc, une situation de violence où, évidemment, comme dans toute situation de guerre, c'est très difficile de maintenir des libertés fondamentales et c'est très difficile de maintenir la démocratie. On le voit encore dans les conflits les plus récents. Par contre, à la fin de la guerre civile en 21, c'est vrai que Trotsky, mais les autres révolutionnaires russes, sous-estiment complètement la question de la démocratie, c'est-à-dire de comment on construit une société socialiste, une société isolée, parce que la Russie soviétique est un État isolé, et le choix qui est fait est le choix d'une dictature d'un parti politique et d'un parti unique, alors que pour moi, la leçon du XXe siècle, c'est qu'il ne peut pas exister de socialisme sans la démocratie la plus large et sans une société de liberté. Bon. Et c'est là que le Trotsky du début des années 20 est un Trotsky qui n'est pas au mieux de sa forme politique pour moi. Après, dans les années 30, il est exilé, pourchassé par Staline. Il mène un combat pour l'unité des communistes et des socialistes en Allemagne contre Hitler, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ça nous parle un peu quand même, hein, comme idée. Il se met en relation avec les courants intellectuels, les courants politiques. Vous avez parlé des surréalistes, d'André Breton. Il considère que l'art ne doit pas être subordonné à la politique, ce qui est très nouveau à l'époque dans le mouvement communiste. Et il réfléchit à une société socialiste, donc débarrassée du capitalisme, démocratique, avec du pluralisme politique, en particulier dans la Révolution trahie, un de ses derniers grands ouvrages. Donc ça en fait un penseur révolutionnaire du XXe siècle, quand même, assez atypique, hein, sur sa capacité à essayer de croiser le socialisme et la démocratie.
Didier Lesky, il faut que vous nous expliquiez maintenant quels sont les différents trotskismes. Parce que le trotskisme a généré différentes branches, différentes cultures, l'OCI, la LCR, les pablistes, tous ces mots peuvent paraître pour certains de nos auditeurs assez abscons et recouvrir une sphère politique assez dure à appréhender.
Alors, dans chaque pays, et en particulier en France, il va y avoir une sorte d'adaptation du trotskisme à la fois à la situation locale, aux réalités culturelles locales, et une adaptation liée aux périodes de minorité. Et les périodes de minorité vont amener des conflits qui sont à la fois des conflits de personnes et des conflits théoriques et vont aboutir en France à trois branches.
Parce que on rappelle que Léon Trotsky s'est fait assassiner en 1940 et qu'à partir de 1940, donc, il ne donne plus de consignes. Avant, il donnait des consignes.
Oui, il ne donne plus de consignes. À partir de 1940, il donne plus de consignes.
Et les trotskistes sont un peu perdus.
La reconstruction du mouvement trotskiste, elle va se faire avec l'aide d'une organisation américaine, le Parti Socialiste des Travailleurs, qui va financer cette reconstruction, aider à ce que émerge de nouveau un nouvel appareil, et puis ceux qui vont sortir des camps, pour ceux qui auront été déportés, ceux qui vont sortir aussi de la clandestinité, sortir de la clandestinité partiellement, puisque c'est l'époque, à partir des années 50, où le Parti communiste est particulièrement fort, avec des intellectuels qui le soutiennent. On peut penser, par exemple, à des écrits de Sartre, hein, « Les communistes et la paix », où on a des passages extrêmement virulents contre les trotskistes. On l'a sans doute oublié. Et du reste, Sartre avait une aversion vis-à-vis des trotskistes qui va l'amener jusqu'à soutenir des maoïstes dans les années 70, un peu bizarrement, si j'ose dire, du point de vue de sa pensée philosophique. Mais enfin, bon, c'est une autre question. Alors, il y a effectivement, je dirais, trois cultures trotskistes qui vont émerger en France. Une culture extrêmement ouvriériste, dont la naissance se situe même avant la mort de Léon Trotsky, et qui est aujourd'hui lutte ouvrière, avec cette idée que on ne peut s'en sortir qu'en essayant de se plonger au cœur du mouvement ouvrier, de la classe ouvrière, des bastions ouvriers. Et c'est comme ça qu'on arrivera à résister avec, d'une certaine manière, les nôtres.
Donc, voilà, lutte ouvrière, Arlette Laguiller.
Qui nous protège.
Lutte ouvrière, de son vrai nom, l'Union communiste.
L'Union communiste, voilà, qui est la
branche matrice, la plus ouvriériste.
Et en 1974, l'émergence de cette candidate qui commence chaque discours par travailleuse-travailleur, si vous voulez, et qui symbolise bien cet aspect ouvriériste, si vous voulez, et qui va perdurer, qui peut parfois faire l'objet de sarcasme, avec cette idée qu'ils sont dans la tranchée et ils ne voient pas le monde qui est autour. Par exemple, le mouvement des femmes leur échappe complètement, d'autres, l'écologie, d'autres questions, parce que eux, ils sont dans la tranchée, mais cette tranchée, ils vont la creuser ad vitam aeternam, et d'une certaine manière, on disait, ils n'en sortiront jamais.
Avant de continuer avec vous, Didier Lesky, à essayer de comprendre les trois grandes branches du trotskisme d'aujourd'hui, depuis les années 60-70, on va justement écouter Arlette Laguiller qui parle de ce triptyque. C'était en 2002 quand Arlette Laguiller a fait 5%. Et d'ailleurs, une autre branche du trotskisme avec Olivier Besancenot fait aussi 5%. Le trotskisme, en 2002, à la présidentielle, fait 10%. Arlette Laguiller, en 2002.
Je vais vous dire, d'une certaine façon, c'est encourageant. Trotsky, il a été assassiné en 1940 sur les ordres de Staline. Et à l'époque, il y a eu, en quelque sorte, trois familles trotskistes qui se sont créées. Trotsky n'était plus là pour dire « c'est cela qui représente vraiment, en quelque sorte, ma succession ». Donc voilà, il faut se débrouiller avec ça.
Didier Lesky, quelles sont les deux autres grandes tendances qui apparaissent dans les années 60?
Elles sont liées à un débat extrêmement dur autour de l'Union soviétique et de la place des partis communistes en Europe. Il y a un monsieur qui a été une grande figure du trotskisme et en particulier du socialisme grec, qui s'appelle Michel Raptiste, dont le pseudonyme était Pablo, qui dans les années 50 théorise cette idée que la guerre est en train d'arriver entre d'un côté l'impérialisme et de l'autre côté l'État ouvrier russe. Elle est éminente à 2-3 ans, enfin il y a un aspect un peu millénariste. À partir de là, la seule solution pour les trotskistes, c'est de s'insérer dans les partis communistes, parce que dans le cadre de cette guerre, la classe ouvrière, les éléments de ferment révolutionnaire seront du côté des partis communistes.
Ça, c'est ce qu'on appelle le pablisme.
Parce qu'ils encadrent la classe ouvrière. Ces militants vont adhérer au Parti communiste français, ça va être un échec majeur. Mais il y a un endroit où cette adhésion de trotskistes, qui est une adhésion clandestine, en réalité, va avoir des effets. C'est au sein de l'Union des étudiants communistes. Et il se trouve que les frères d'Alain Krivine sont déjà trotskistes. Ils sont déjà au Parti communiste internationaliste. Et ils vont gagner leur jeune frère, Alain Krivine, à l'idée trotskiste autour du soutien à la révolution algérienne. Cette matrice-là, elle va donner d'abord la jeunesse communiste révolutionnaire, puis la Ligue communiste révolutionnaire. Et cette branche, que son autre branche appelle les pablistes, va être la branche la plus, je dirais, la plus souple, la plus innovante du trotskisme.
Ce qui donnera la LCR plus tard.
Qui donnera la Ligue communiste révolutionnaire.
Puis le NPA.
Puis le NPA. Le thème de Pablo, c'était « il faut aller dans le mouvement réel des masses ». Bon, et le mouvement réel des masses, il peut avoir différentes formes. Pablo, par exemple, dit très tôt « il se passe quelque chose aux États-Unis, c'est le mouvement des femmes hein, ». Il faut qu'on soit dans le mouvement des femmes. Il y a l'écologie, il faut qu'on commence à réfléchir. Et puis, il y a tous les débats autour du syndicalisme à la LCR. Il va y avoir ce débat vif en 1995, au moment des grèves, qui vont aboutir à la création des syndicats sud, solidaires, unitaires, démocratiques, et qui vont reconfigurer le mouvement syndical en France. Tout ça, c'est l'émanation de cet entrisme qui commence au début des années 60 et qui est une façon aussi d'échapper au caractère minoritaire, c'est-à-dire ce que Edmond Maire appellera les coucous. Il dira, bah oui, il y a des coucous à la CFDT, il y a des coucous, c'est-à-dire des gens qui font leur nid chez les autres pour essayer de construire une autre organisation. En réaction à la pensée de Michel Pablo, c'est-à-dire de cette guerre qui vient, eh bien, il va y avoir un groupe d'ouvriers qui a déjà une certaine influence dans des entreprises, qui ne veut pas adhérer à la CGT et qui donc va adhérer à Force ouvrière. Et à partir de là, va commencer un long compagnonnage avec la social-démocratie et parfois même avec la franc-maçonnerie, alors que dans le trotskisme, Trotsky lui-même avait exigé que les dirigeants socialistes en 1920 quittent la franc-maçonnerie parce que c'était le lien avec les radicaux, donc avec les bourgeois, eh bien, ils vont créer ce qu'on a appelé après l'organisation communiste internationaliste, qui est devenue célèbre parce que Lionel Jospin y a appartenu. Donc les Lambertistes, c'est l'OCI. C'est avec Lambert, ce groupe d'ouvriers qui ne veut pas aller à la CGT, qui ne veut pas aller au Parti communiste français et qui va commencer un long compagnonnage avec Force ouvrière, sachant qu'à l'époque, eh bien Force ouvrière, c'est quand même le lieu de l'anticommunisme.
Dont on dit que la CIA, la FLCIO, le syndicat américain
a aidé à financer l'émergence. Lambert, lui, va choisir plutôt de travailler du côté des socialistes et surtout du côté de Force ouvrière. Hein, et il va construire un appareil à partir de Force ouvrière et il va aller jusqu'au bout de ce compagnonnage en faisant adhérer des personnes au sein de la SFIO, et dont Lionel Jospin, avec cette idée qu'à un moment donné, dans le conflit, eh bien, on pourrait de nouveau avoir l'émergence d'un courant de gauche avec lequel il pourrait, à un moment donné, fusionner pour construire un parti révolutionnaire.
Je pense à l'affirmation prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Eh bien, vous voyez ?
Voilà ce petit lapsus de Lionel Jospin pour vous allécher. Nous allons traiter un peu plus longuement le cas Jospin dans le prochain épisode d'Enquête de politique. On poursuit avec Didier Lesky.
Thomas Legrand.
Plus tard, dans les années 80, tous les jeunes, les étudiants qui sont avec Lambert quittent ce mouvement pour rejoindre le Parti Socialiste. Alors là, c'est pas de l'entrisme, c'est un différent avec Lambert.
Le problème de l'entrisme, il est résumé...
Un terme trotskiste qu'il faut éclairer.
Voilà, c'est l'entrisme, c'est-à-dire entrer dans une organisation qui est plus grosse que vous pour essayer d'en gagner des adhérents à votre ligne politique, pour essayer de la casser, d'en prendre un morceau, pour construire une organisation indépendante qui sera directement organisée.
Entrer clandestinement, forcément ou pas ?
Pas forcément. Ça dépend des périodes et ça dépend où. Chez les socialistes, dans les années 30...
C'était à drapeau déployé.
Il va y avoir, de fait, un entrisme dans une organisation dont on a oublié le nom, mais qui a été importante au moment de la lutte pour l'indépendance algérienne, qui est le Parti Socialiste Unifié. On a beaucoup de trotskistes qui vont rentrer au sein du Parti Socialiste Unifié et qui vont essayer d'influer sur l'orientation générale du Parti Socialiste Unifié. Et c'est du reste cet échec qui va amener justement cette fameuse scission du courant avec lequel mon organisation va aussi fusionner pour créer une autre organisation.
Par exemple, Michel Rocard aussi quitte le Parti Socialiste Unifié à cause des gauchistes que vous étiez et rejoint le Parti Socialiste en 1974. Donc alors, attendez, résumons. Lesky, parce que ça devient compliqué.
Un courant extrêmement ouvriériste, lutte ouvrière, travailleuse-travailleur.
Voilà.
Il va y avoir donc ce qui est issu de l'entrisme au sein du Parti communiste français et de l'Union des étudiants communistes et qui va donner la Jeunesse communiste révolutionnaire et après la Ligue communiste, qui est un courant qu'on va dans un premier temps appeler trotsko-guevariste parce qu'il est extrêmement attentif à ce qui se passe en Amérique latine. L'Amérique latine est un autre continent du trotskisme. Il y a la figure de Che Guevara avec des militants qui vont aller à Cuba. Ils vont participer de la révolution cubaine, de la construction de l'économie socialiste à Cuba.
Il y a ce romantisme de la révolution.
Et c'est un courant qui est extrêmement en phase avec la révolte des jeunes, avec tout ce qu'elle va produire de contre-culture, de nouvelles cultures, avec même en son sein des figures qui vont théoriser la libération sexuelle. Par exemple, Roland Castro vient de mourir, mais il a commencé dans cette mouvance avec un journal qui s'appelait « Tout, nous voulons tout » et d'autres encore « Vive la révolution ». Voilà. Cette mouvance-là, elle va perdurer et elle va rester dominante dans le trotskisme jusque dans les années 80-90 un peu avec la figure de Besancenot. Et puis le lambertisme, c'est-à-dire ceux qui refusent d'adhérer au Parti communiste et à la CGT dans les années 50.
Donc ils ne sont pas d'accord avec Pablo.
Ils ne sont pas d'accord avec Pablo, qui vont devenir des cadres syndicaux et qui, dans ce compagnonnage avec Force ouvrière, vont commencer à se lier avec des courants au sein du Parti socialiste et vont même y envoyer des adhérents pour essayer d'infléchir un peu la ligne du Parti socialiste. Et c'est l'opération Jospin, mais avec cette difficulté qui, dans l'entrisme, c'est qu'à un moment donné, beaucoup d'entristes sont happés par la formation dans laquelle ils sont rentrés.
Ils sont ingérés, digérés même.
Ingérés, digérés. C'est vrai.
Lionel Jospin devient un social-démocrate assez rapidement. Enfin, un socialiste en tout cas, un socialiste républicain. Alors, et réformiste assez rapidement.
Peut-être avec mauvaise conscience, ce qui peut expliquer parfois ses difficultés à expliquer les choses. Mais ça va être vrai aussi du côté des pablistes, puisqu'on a des militants qui étaient avec Pablo, qui vont devenir même des staliniens au sein du Parti communiste après avoir été digérés. Mais il y a autre chose qui s'est passé chez les Lambertistes qui va les briser, c'est que l'aspiration de l'appareil social-démocrate fait que ça va entraîner les cadres jeunes, avec autour de quelqu'un comme Jean-Christophe Cambalidis et d'autres.
400 militants.
400 militants, mais qui vont...
En 86.
En 1986, qui vont adhérer au Parti Socialiste.
Là, il s'agit avec les 400 départs du PCI, à ce moment-là, l'OCI s'appelait le PCI, le Parti Communiste Internationaliste. Ces 400 départs, ce n'est pas de l'entrisme. Là, c'est une scission.
C'est une scission et une aspiration. Cette opération entriste au départ, qui visait à ce que des socialistes rejoignent les trotskistes, aboutit à la fin à ce qu'un groupe de trotskistes, et non des moindres du point de vue des lambertistes, adhère franchement à la social-démocratie. Et du reste, Cambadélis va faire une première chose, c'est qu'il va disperser l'ensemble des gens, il ne va pas construire à l'intérieur du Parti Socialiste un courant.
Et c'est l'heure du livre d'Aurélie Marcirot. On fait un petit bond dans le temps avec vous, Aurélie. Bonjour, Aurélie.
Bonjour, Thomas.
Aujourd'hui, pour ce volet, vous avez choisi un polar, La nuit tombée sur nos âmes, sorti chez Agulhos en 2021 et en poche au début de l'année.
Souvenez-vous de Gênes en 2001. Alors, cela n'évoquera peut-être pas grand-chose aux plus jeunes, mais pour les autres, ce sont ces images qui reviennent en tête. Un rassemblement du G8 sous haute sécurité dans la ville italienne, des violences, un mort, et pour la première fois, vraiment, le grand public voit les Black Blocs.
Et en parallèle, une grande violence policière.
Exactement. Frédéric Pollin est un auteur de romans noirs reconnu, et il nous raconte, il y était, ces journées qui ont marqué l'extrême gauche européenne. Il préparait alors une thèse sur les milieux de la gauche extra-parlementaire et fréquentait les trotskistes, les autonomes et les autres qu'il décrit dans ce livre. Et c'est en cela que ce polar résonne avec notre série. Les deux héros, Swag et Nathalie, sont amoureux mais s'opposent politiquement. Avant Göteborg, ils ne s'étaient croisés que lors de manifs ou au bistrot. Ils n'avaient échangé que des mots et des vannes. Elle se foutant de la LCR, lui raillant les visées révolutionnaires de la CNT, comme ça se passe entre un nanar et un trotskar, écrit l'écrivain. Lui est trotskiste, ex-porte-parole, désormais en rupture de banc et dans une situation difficile, je n'en dis pas plus. Et elle, autonome, elle ne supporte pas les ex-camarades de Swag, les, je cite, « idiots utiles » de Chirac et Jospin. Les deux partent à Gênes, rencontrent tous les milieux de cette mouvance. On croise aussi des journalistes, des policiers qui tentent de faire leur travail, un politicien italien d'extrême droite qui veut utiliser les débordements, des conseillers comme du gouvernement français, un vrai polar politique autour de faits réels.
Et alors, comment sont décrits les mouvements qui ont convergé vers la ville?
Alors, il y avait des centaines d'organisations anticapitalistes, chrétiennes, altères comme Attaque, des désobéissants, des socialistes, mais Pollin s'intéresse surtout au monde de ces deux héros. Les trotskistes, organisés, disciplinés dans un mode un peu sectaire, où le chef est le chef. Alain Cribin et le tout jeune Olivier Besancenot étaient à Gênes. Ils sont dans le roman. Avec des militants avec bouc et lunettes rondes, j'ai demandé à l'auteur si ce n'était pas un peu caricatural. Il m'a dit non. Il y avait alors un look Léon. Alors ces derniers se confrontent aux autonomes, les totos comme ils disaient, qui eux vont au contact revendiquant la violence comme seule solution, avec un mépris assumé pour les autres, les trotskistes, mais également ceux qui votent sur les votes pour savoir s'il faut agir. L'acrimonie est telle avec les disciples de Trotsky qu'ils ont failli en arriver aux mains, les deux groupes ayant la même terreur d'ailleurs, Thomas qui frise la paranoïa, être infiltré par la police. Alors pour terminer Thomas, un mot des renseignements intérieurs, la DST, ça rappellera quelque chose au plus ancien à l'époque, voilà ce qu'écrit Pollin. Leur boulot, c'est de surveiller les individus, les groupes et organisations étiquetés d'extrême-gauche. Le discours officiel, c'est que l'époque du renseignement d'opinion était révolue. Pourtant, l'idée fixe de la droite, c'est que la faiblesse du PS, la quasi-disparition du PCF et l'état végétatif de la LCR ont ouvert un champ d'action à l'activisme de la gauche extra-parlementaire. C'était il y a 22 ans, Thomas.
Merci Aurélie. Et le look Léon dont vous nous avez parlé, on l'a un petit peu dans Enquête de politique avec Franck Oliva.
Exactement, il lui ressemble beaucoup.
Merci Aurélie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
L'entrisme, on a commencé à aborder cette question centrale et fantasmatique du trotskisme. Il faut faire le point sur ce sujet avec l'historien Benjamin Stora, ancien de l'OCI.
La première raison d'abord, c'est de conquérir des positions à l'intérieur du mouvement ouvrier, notamment par l'intermédiaire de la CGT. Ça, c'est la première raison. Pour les lambertistes, c'était surtout dans Force ouvrière, mais pour les pablistes, c'était surtout la CGT. La deuxième raison, c'était que quand on est à l'intérieur, on peut convaincre secrètement, un par un, des militants de rejoindre secrètement les trotskistes. C'est-à-dire que quand on est en réunion de cellules du PCF, les trotskistes étaient très brillants dans leurs explications, dans leurs références historiques. Ils étaient, comme on disait à l'époque, très formés. Politiquement, par rapport aux militants du Parti communiste, qui avait beaucoup moins lu, etc.
C'est aussi comme ça que les hiérarches communistes les reconnaissaient. Hein, quand quelqu'un avait l'air d'être un petit peu plus intellectuel, avait des lunettes, il pouvait être traité de trotskiste assez rapidement.
Absolument. C'est-à-dire qu'on savait que s'il y avait, dans une cellule, des gens qui argumentaient de manière trop élaborée, trop sophistiquée, etc., c'était peut-être des trotskistes infiltrés, parce qu'ils savaient trop de choses. Par exemple, qui pouvait développer toute la bataille de l'opposition de gauche en 27, de Trotsky contre Staline, enfin, qui pouvait savoir tout ça? Enfin, je prends cet exemple, mais il
suffisait de dénoncer la bureaucratie, par exemple.
De dire ce qui s'est passé en 27, en 33, en 37, qui pouvait savoir tout ça? Donc on se disait, du point de vue de la direction du Parti communiste, ce sont certainement des trotskistes infiltrés. Et donc c'est la deuxième raison, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules du Parti communiste, réussir à gagner, à convaincre, à faire adhérer secrètement à l'organisation trotskiste clandestine des militants du Parti communiste. Et d'ailleurs, ça a pas mal marché, parce que lorsque il va y avoir la scission de 1965, je crois, ou 66, eh bien, quand même, je veux dire, il y a plusieurs centaines de militants qui vont sortir du Parti communiste français, emmenés par, en fait, des trotskistes qui étaient à l'intérieur depuis de nombreuses années. Donc c'est la deuxième truc. Et la troisième truc, évidemment, c'est aussi de disposer d'un maximum d'informations sur ce qui se passait en France, dans les usines, dans la société française, pour pouvoir se construire, en fait, construire le Parti révolutionnaire, en fait. C'était ça, le truc. Donc ça, c'est la question de l'antrisme, ce qu'on a appelé l'antrisme sui generis, c'est-à-dire d'un antrisme dissimulé, en fait. Mais la position de l'OCI, officiel, tel que moi je l'ai vécu quand je suis rentré.
Donc Benjamin Stora, l'OCI, c'est à partir de 68, 69 ?
Voilà, moi je suis rentré à l'OCI en 69, j'étais à la GS en 68, mais quand je rentre à l'OCI en 69, il n'est absolument pas question de faire de l'antrisme. Mais l'idéologie de la direction de l'époque, c'est celle quand même, c'est un peu schizophrénique quelque part, c'est-à-dire qu'on ne fait pas d'antrisme, mais on se dissimule quand même, il faut faire attention. Parce que l'ennemi quand même, c'est-à-dire les staliniens principalement, sont très puissants.
Benjamin Stora, nous le retrouverons longuement la semaine prochaine pour qu'il nous raconte sa jeunesse en trotskisme. Il a été permanent de l'OCI avec le mythique Pierre Lambert. Il nous racontera ses noms d'emprunt, les stratégies tordues, les filles aussi, cette illusion d'optique de la toute-puissance des mouvements d'extrême-gauche. Et nous aurons, avec François Sabadeau, le pendant du côté de la LCR, toute une vie de trotskisme dans le mouvement de Daniel Bensaïd, Henri Weber et d'Alain Krivine, son expérience d'établi en usine, et son idée d'aller chercher le jeune facteur besancenot pour revitaliser le trotskisme. Vous pouvez nous laisser un message sur la page de l'émission du site de France Inter. Merci à Sofiane Aktib qui était aux manettes aujourd'hui et à Thierry Dupin pour la programmation musicale. Donc à la semaine prochaine pour le troisième volet de notre mois de mai trotskiste. Le tout est bien sûr podcastable. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.